forcément qu'il y aura des priorités, mais ça veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, sur RMC, à la radio, sur RMC Sport News, à la télé, dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football masculin et féminin pense tout bas. Eh oui, parce qu'il y a du foot féminin ce soir, vous allez voir ça dans quelques instants avec Jonathan Macardy qui est là. Salut Jonathan.
Salut tout le monde.
Avec Pierre Ducrot, salut Pierre.
Bonsoir à tous.
Et avec Laure Lepailleur. Laure, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Pourquoi? Parce que l'événement de l'After ce soir, c'est l'équipe de France Féminine qui joue un match amical. France-Uruguay, à Tours. Alors, il y a la Coupe du Monde. Hein. Vous savez que tous les matchs de l'équipe de France seront sur RMC pendant la Coupe du Monde. Évidemment, on va la suivre comme la Coupe du Monde des garçons, en espérant que ça donne le même résultat d'ailleurs.
Ce serait bien.
Espérons-le. Laure, donc il y a toute une série de matchs amicaux. Il y en avait un jeudi dernier, c'était déjà dans l'After. Il y en a un ce soir. Jeudi dernier, c'était l'Allemagne, grosse nation dans le foot féminin. Là, c'est l'Uruguay, c'est un petit peu moins fort. Puis il n'y a pas Cavana en Uruguay.
Un petit peu, je disais, c'est mesuré un petit peu moins fort. Vraiment, il y a plusieurs classes d'écart. Maintenant, en termes de prestations, en contenu de jeu de l'équipe de France, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Même si les Uruguayennes, voilà, elles sont vaillantes, elles sont conquérantes, mais
ça manque. Ça veut dire qu'elles sont nulles.
Elles ont quasiment pas passé le milieu de terrain première mi-temps. Donc la France doit faire mieux, par contre, notamment d'un point de vue offensif, en termes de qualité technique dans les derniers mètres, ça a manqué de justesse. Il y a des joueuses aussi qui ont des places à gagner ce soir.
C'est quand la liste des 23 ?
Au mois de mai. Juste avant un mois avant la compétition, il y a des places à gagner. Je pense à Gauvin qui est en concurrence, je pense avec Katoto sur ce poste parce qu'il y a beaucoup de concurrence en attaque. Viviane Assayi qui par contre ce soir tire un petit peu son épingle du jeu et la joueuse un peu la plus remuante, un petit peu piquée au vif, qui avait pas été sélectionnée en fin d'année 2018 et qui était pas dans le groupe, mais qui revient plutôt bien. Et puis voilà des joueuses qui sont aussi à des postes pas habituel comme Grace Guerrero qui est 6-10 ce soir en meneuse de jeu, mais clairement pour l'instant c'est pas satisfaisant.
Ça va reprendre d'ailleurs à Tours et Pierre-Yves Leroux est sur place. Salut Pierre-Yves.
Salut Gilbert, ça reprend à l'instant même sous la pluie au stade de la Vallée du Cher, 3-0 donc pour l'équipe de France qui va devoir être un peu plus efficace, comme le disait Laure il y a un instant, pas au niveau du nombre de buts parce que 3-0 c'est pas mal, mais il faudra être plus précise dans cette deuxième période pour assurer peut-être un petit peu aussi Corinne Diacre.
Il y a également de la Ligue 2 ce soir. Le Havre reçoit Metz. Christophe Lécuyer, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Il se passe des choses ici au stade Océane avec la réduction de l'écart à l'instant du FC Metz qui n'est plus mené que 2-1 ici sur la pelouse du stade Océane. 2-1 parce que les Havrais venaient juste avant, dans la minute précédente, de marquer un deuxième but sur pénalty par l'intermédiaire de Kadewere. Un pénalty consécutif à une faute d'Alexandre Oukidja, le gardien messin, sorti un petit peu n'importe comment, on peut le dire comme cela, sur Jean-Pascal Fontaine, pénalty indiscutable. Ça faisait 2-0 pour le Havre jusqu'à la réduction donc de l'écart de l'équipe messine qui n'est plus menée que 2-1 sur la pelouse du stade Océane. Mais très bon résultat quand même pour le moment, hein, pour cette équipe havraise qui était en grande difficulté mais qui pour l'instant est en passe de faire chuter le leader messin. Il reste 25 minutes à jouer dans cette rencontre, 2-1 pour le Havre.
Ah, tout de suite. Bon, alors évidemment, Laure, tu participes aussi à le débat, hein, parce que figure-toi qu'on va parler du niveau général de la Ligue 1. Jonathan veut en parler. Pierre, lui, veut parler de PSG Manchester de mercredi. Et puis, moi, je vais vous parler des révélations de Marc Frattani, l'ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ne pas en parler?
Non, moi, ce que je veux savoir, c'est si tu sais quelque chose, Gilbert.
Non, rien de plus que...
Il m'a fait peur.
Non, mais bon, c'est quand même un avis, tu vois. Pas me gêner pour le donner. Et puis le reste de l'actu du jour, évidemment, plus les drôles de dames, comme tous les lundis, de 23h à minuit. Elles seront toutes là, parce que demain, il y a Ligue des Champions. Eh oui, Ligue des Champions.
Riche
demain,
programme. Hein.
Ligue des Champions mercredi et Europa League jeudi. Et là, attention messieurs dames, Rennes-Arsenal, vous le savez, c'est jeudi. Donc à Rennes, et ce soir dans l'After, on vous offre vos places pour Rennes-Arsenal. C'est pas mal ça.
C'est génial.
Ah oui. Ah oui, d'autant que c'est la course au billet à Rennes et tout. Il y en a plus beaucoup. Donc nous, on en a encore. Donc pour remporter vos places pour ce match Rennes-Arsenal, il suffit d'envoyer dès maintenant foot au 732-16 par SMS. Vous envoyez, je le rappelle, foot par SMS au 732-16 et on aura le gagnant des places tout à l'heure. Juste avant minuit, je crois qu'il y a un but pour l'équipe de France féminine pendant ce temps-là. Pierre-Yves.
Exactement, avec le quatrième but pour les Françaises, Viviane Asseyé qui suit bien cette frappe d'Amandine Henry qui va sur le poteau et la gardienne uruguayenne est pas très attentive sur ce coup-là. Logiquement, elle a dû arrêter ce ballon ou le sortir. Viviane Asseyé, elle est la première à pouvoir passer la balle au fond des filets. Ça fait 4-0 pour l'équipe de France après 48 minutes.
Ah ouais ouais, c'est vrai que la gardienne uruguayenne est très mauvaise en fait, hein. Enfin, je sais pas alors ce que t'en penses, mais
c'est Grace Guiraud qui marque.
Ouais, c'est Grace, c'est, ouais, c'est Guiraud, pas, oui, c'est pas Viviane Assis, c'est Grace Guiraud. Bah clairement, la gardienne uruguayenne, c'est le point faible de cette équipe. Ouais. On voit sur les buts encaissés, elle a été chanceuse en début de match en arrêtant quelques ballons, mais là clairement, voilà, elle est très en difficulté.
4-0 pour l'équipe de France féminine. Et donc, n'oubliez pas vos places pour Rennes-Arsenal. Je le rappelle, vous envoyez foot par SMS au 7-32-16. Le 32-16 qui est ouvert évidemment tout le temps pour débattre avec nous. Le hashtag RMC Live. Plus direct studio sur l'appli gratuite RMC Sport, vous le savez. On vous attend. Attention, Jonathan McCarty a regardé la Ligue 1 ce week-end et il est pas content. Jingle.
Comme un couple, quand t'as Nana, tu la vois tous les jours, je commence à plus voir quand elle est mal rasée.
Ce soir, il nous avoue, il aime les travaux.
Laure, bienvenue dans la fleur.
T'avais dit ça? Non, moi, ça me fait rire.
T'avais dit ça? Encore, t'aurais dit épilé, mais rasé.
Oui, bon. Sans commentaire.
Ouais, c'est une erreur.
Ah oui, tu voulais parler du niveau général de la Ligue 1?
Bah oui, parce qu'écoute, on fait, voilà, on est souvent, moi, je suis souvent là le vendredi et le samedi, soir des multiplex, on voit pas mal de, quasiment tous les matchs de Ligue 1 avec mes acolytes Ludo et Ali. Et puis, en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est le match du dimanche qu'on a débriefé avec Pierre hier, où Marseille a gagné et puis il se remet dans la course au podium. Après sa lente et lancinante agonie hivernale. T'as aussi Saint-Etienne qui, malgré cette défaite relativement pathétique, reste cinquième dans la course pour les places européennes, avec un fond de jeu qui est très souvent médiocre et des résultats cyclotismiques. Donc c'est assez surprenant de voir que ces deux équipes-là, qui sont pas en très grande forme, sont quand même dans la course pour les cinq premières places. Moi, en fait, ce qui me surprend aussi, c'est que samedi, on s'est retrouvé avec Ali à s'enthousiasmer pour les deux remontadas monégasques et rémoises face aux ogres.
Après samedi, vous aviez deux petits matchs, donc forcément.
C'était bien, ça a fait 2-2, il y a eu du suspense, deux belles remontadas. Donc voilà, on était là, on dit ouais, mais au final, quand on fait le bilan de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison, moi ce que je dis c'est que cette Ligue 1, c'est vrai que nous offre quelques soubresauts de satisfaction. On pourrait parler de la Grinta strasbourgeoise qu'on a mis en avant pendant un petit moment,
magnifique,
la pugnacité en Angeline, ou encore de la surprise rémoise qui propose, c'est vrai, des choses dans le jeu avec un entraîneur qui est sérieux, David Guillon, qui est un bon entraîneur. Mais un constat qui s'impose, c'est que même si on a toujours trois clubs qui sont toujours en vie sur la scène européenne, bah le niveau moyen de la Ligue 1, il est kakoshim. Mis à part le PSG, en fait, t'as tout le monde qui veut battre tout le monde. Le symbole en fait de ça, c'est l'irrégularité lyonnaise qui est capable de s'offrir le scalp du Paris Saint-Germain, mais qui est aussi capable de perdre contre des petites équipes la semaine d'après, de chuter face à l'inattendu. Moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'on est dans un championnat où, comme je l'ai dit, tout le monde peut battre tout le monde, et il y a une sorte d'incertitude qui règne. Mais cette incertitude, c'est pas la glorieuse incertitude du sport. C'est quand on analyse bien les matchs, le contenu technique et le contenu tactique, c'est l'incertitude, elle est due au niveau moyen, vraiment moyen, si j'ose dire, au niveau moyen de jeu. Alors cette saison, si on compare, on est à la 27e journée. Bon, il y a eu quelques soubresauts avec les matchs reportés, etc. Mais j'ai regardé en fait sur les 5 dernières saisons, à la 25e journée, j'ai cumulé le total de défaites des 5 premiers. Depuis 5 saisons. Et cette saison, avec 29 défaites, on a le plus haut total sur les 5 dernières années, sachant que sur les 5 dernières saisons, donc la moyenne était de 25 défaites. Il y a quand même 4 défaites de plus, tu vois, si tu cumules les défaites des top 5. Ça veut dire qu'en fait, mis à part le Paris Saint-Germain qui écrase vraiment cette Ligue 1, bah le
ça
reste derrière,
les autres, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième ont perdu une fois de plus, quoi.
C'est ça, c'est un peu, c'est le niveau est beaucoup plus faible qu'avant. Alors on se retrouve dans un championnat où t'as le LOSC qui avec une équipe qui a une moyenne d'âge.
On peut débattre du fond, Joe, mais sur ta stat, une défaite de plus, honnêtement.
C'est quand même significatif, je trouve.
Tu crois?
C'est quand on analyse en détail, mais je donnerai le détail après.
Oui, enfin, sur le fond, on peut effectivement débattre sur cette stat.
Je vais poursuivre et tu vas comprendre où je veux en venir.
Vas-y.
C'est que là, tu te retrouves dans un championnat où t'as le LOSC qui était pas du tout programmé pour ça en début de saison. Tu l'aurais dit cet été, le LOSC avec cet effectif-là, ils vont jouer la Ligue des Champions. Personne l'aurait cru. C'est une belle surprise. Alors, c'est une équipe de gamins, pas du tout programmé pour ça. T'as Lyon, qui a quand même 6 défaites pour un troisième, c'est énorme. Et t'as Marseille qui en a 9, Saint-Etienne qui en a 7. Tu te rends compte, dans le top 5, t'as 6, 9 et 7 défaites, ce qui est énorme. Alors, à la rigueur, ça, c'est vrai que je pense que c'est pas le pire. Mais moi, le pire, je trouve, quand on regarde dans le contenu, c'est le nombre d'équipes qui ont pas vraiment de personnalité. Alors, à l'image de Marseille, qui, même si depuis 2-3 matchs, ça se trouve un peu avec le 4-4-2, à l'image de Saint-Etienne, à l'image encore de Bordeaux, et là je cite que des clubs qui sont censés être historiques, hein, il n'y a pas vraiment d'équipe avec une très grosse personnalité. Alors comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a quelques rayons de soleil, Strasbourg, Angers, Reims, mais il y a trop d'équipes qui vraiment, t'as l'impression que c'est trop brouillonne quand, dans ce qu'elles veulent mettre en place. Et, là, et pour moi, le vrai problème, il est là, c'est que ça manque de personnalité, et quand tu fais le compte des équipes qui sont qui te laissent, voilà, qui te font ni chaud ni froid, il y en a beaucoup trop. Alors, le résultat sur les pelouses, il est pas fameux. Et faut dire aussi que même si le Paris Saint-Germain de cette année, la QV 2018-2019 parisienne, c'est un très grand cru, quand tu regardes derrière, eh ben, par rapport à ce que t'avais les saisons dernières, t'avais un espèce de wagon de top 4 qui se mettait en place avec Lyon, Marseille et Monaco. Là, le top 4, il a volé en éclats et t'as plus cette locomotive qui a entraîné le reste de la Ligue 1 en avant. Alors moi, oui, je pense que le niveau du championnat, il est grandement en baisse. Si on met de côté l'affection qu'on en a pour, bah, la Ligue 1, parce que c'est quand même notre Ligue 1, on est toujours content de l'avoir. C'est quand même inquiétant. Et j'attends de voir ce qui va se passer, parce que quand on regarde dans le contenu, il faut aussi regarder qui y a sur les bancs, ce que proposent les entraîneurs sur les bancs, et je pense qu'on a une première piste de réflexion pour expliquer ce niveau qui, somme toute, est relativement bas.
Et le mec, il bosse, hein, parce qu'il est carrément venu avec un texte, là. D'habitude, il a des notes,
moi, mais là... De toute manière, moi il m'a perdu au moment où il a dit cyclotismique, là. Et puis cacochisme. Cacochisme, pardon. Moi, j'ai même pas retenu la totalité du mot, quoi. Moi, je peux rien dire. Il m'a perdu à partir de là. C'était au début.
Je te l'ai dit. Tu as fait un petit contresens sur Kakoshim. Kakoshim, c'est quelqu'un d'âgé.
Non, c'est quelqu'un qui est très malade, très fébrile, en fait. Comme si l'âge avait un rapport avec la maladie et la fébrilité.
Mais la kakoshimie n'a pas de lien avec l'âge.
C'est dû à un état fébrile et malade.
Je vais le renseigner, tiens. Ah. Bon, sur le fond, d'accord avec Jonathan, Pierre, ou pas?
Plus sérieusement, sur le fond, on peut en débattre. Effectivement, je vais pas me faire le défenseur de la Ligue 1 à tout prix.
On l'aime, hein.
Peut-être, ouais, on l'aime. Et moi, tu le sais, j'y travaille. Et je sais qu'il y a des gens et beaucoup de gens qui travaillent et qui veulent faire du bon boulot dans cette Ligue 1, malgré ce que certains veulent penser. Donc je ferai pas un constat aussi alarmant. On est toujours plus un peu plus préoccupé ou un peu plus tatillon avec ce qui nous concerne, avec ce qu'on aime et ce qu'on a à la maison, forcément. Tu prenais la stat déjà de un match perdu par le deuxième, le troisième et le quatrième et le cinquième, je crois que c'est ça, les quatre premières équipes hormis le PSG, un match de plus. Est-ce que c'est réellement parlant? Est-ce que le nombre de défaites
du PSG est très faible?
Bah tu sais quoi, pendant que tu parlais, j'ai été voir, je me suis dit
déjà 2-3.
Ouais, mais parce que je me suis dit, c'est pas possible dans les autres championnats, les mecs alors ont perdu que 3-4 fois, etc. Mais quand tu reprends tous les championnats, tu vas, Fred Hermel nous dit tout le temps la meilleure Liga du monde, c'est la Liga espagnole. On est d'accord. On n'est pas obligé de le croire, mais on va aller voir juste les chiffres. Je suis sûr qu'il y a des équipes qu'on perd autant.
Le palmarès récent lui donne raison.
Tu sais quoi, le FC Barcelone a perdu que 2 fois. Je te rejoins. Sauf que le Real Madrid, qui est 3e, il a perdu 8 fois. Retafe, qui est 4e aujourd'hui, a perdu 6 fois. Alaves a perdu 8 fois, ils sont 5e. Séville, qui est 6e, a perdu 9 fois.
J'étais sûr que tu me disais qu'on me
dit. Non, mais tu vois, est-ce que c'est pas aussi... Et pourtant, la Liga n'a pas l'air malade.
Je pense que cette année, en fait, ces chiffres-là ne sont pas forcément significatifs.
Bah, c'est pour ça.
Moi, je vais dans le sens de Jonathan sur la qualité de jeu.
Juste pour le championnat espagnol, c'est vraiment conjoncturel, parce que le Real a été malade, et t'as Séville et Valence qui font des saisons catastrophiques.
L'Espagne, c'est à 23h. Qualité de jeu.
Le 4e, le 5e, le 6e ont autant de défaites que les équipes que tu m'as parlé. Alors, tu peux... C'est pour ça que c'est toujours dangereux de toute manière de comparer, parce que de toute manière ces équipes-là jouent pas contre les mêmes adversaires que nos Ligue 1 en France. Donc effectivement, c'est les chiffres, c'est pour te dire que j'ai presque envie de les mettre à part, les chiffres. Si on se borne au fond, c'est-à-dire peut-être au jeu comme tu dis, Gilbert, ouais. Effectivement, c'est un jeu qui est peut-être en France moins plaisant qu'en Liga, qu'en Allemagne. Mais c'est pas nouveau. On a souvent eu le débat avec Daniel, c'est culturel, on a un football qui est différent d'ailleurs. Alors on l'aime, on l'aime pas. On le préfère ou on préfère ailleurs, ça c'est une opinion et c'est une opinion.
Une opinion, pardon,
tant pour moi. Et chacun peut avoir la sienne. Ouais. Mais c'est moi je trouve pas aujourd'hui t'as deux équipes en huitième de finale de C1, t'en as une qui est en huitième de finale d'Europa League, qui a battu Séville, voilà le Betis, c'est qui a fait ce qu'il fallait.
Alors je suis d'accord avec ça, mais n'oublions pas. Alors
c'est aujourd'hui au moment même, on est d'accord. Mais je pense pas que tout soit aussi noir, quoi. C'est juste ça.
Laure, est-ce que t'es d'accord avec Jonathan ou pas?
Moi je trouve que effectivement en termes de qualité de jeu, la Ligue 1, elle fait pas rêver. Quand on regarde les autres championnats, c'est vrai que voilà, on a tous sa philosophie de jeu. Voilà comment on perçoit le football. Forcément, on est plus attaché à certains championnats que d'autres. Maintenant, c'est vrai que voilà, moi au niveau de la Ligue 1, je reste assez mesuré. Je comprends ce que tu dis, Pierre, par rapport, le travail est différent, le football est différent. Mais
voilà, la culture est différente. Je vais te donner un autre élément, Pierre. Je suis
d'accord avec toi. Je prends peut-être plus de plaisir régulièrement à regarder des matchs de première ligue parce que c'est très ouvert, etc. Ou en Allemagne.
Le sujet, je pense que le sujet de ton avis, c'était pas forcément de comparer avec les autres championnats. Non. C'est de comparer avec la Ligue 1 de l'année dernière,
J'ai juste.
Remets-toi, il y a un an. Il y a un an, t'avais. Bon, tu peux avoir du plaisir à voir le PSG jouer. Monaco, ça tournait.
Ouais, parce que Monaco.
Lyon à cette période-là l'année dernière, c'était mieux.
Marseille, c'était nettement mieux.
Bon, Lille, c'était bien moins.
Est-ce que c'était mieux de jouer Marseille dans le jeu?
Il y avait un état d'esprit, une personnalité. Moi, je suis pas de la dictature, du beau jeu, du redoublement de passe, ça me gave. Et chaque équipe doit avoir son propre style de jeu. Tu peux prendre autant de plaisir à regarder l'Atlético de Madrid que l'FC Barcelone.
Exactement.
Mais c'est le manque de personnalité des équipes. Et même, regarde Nantes, par exemple. Nantes, avec Conceição, c'était mieux.
Alors tu sais quoi, par contre, je te posais cette question sur l'OM, enfin sur l'état d'esprit, est-ce que c'était forcément mieux dans le jeu? Tu m'as dit non, et c'était autre chose, c'était une personnalité.
C'est le style.
Est-ce que aujourd'hui, ce qui est pas dérangeant finalement, c'est que ce ne soit pas l'OM, Bordeaux, des équipes comme ça qui n'aient pas cette personnalité, et que par contre, des Strasbourg, des Reims,
Rennes,
équipes comme ça qui eux ont trouvé une personnalité et autre chose.
C'est exactement ce que je voulais dire.
C'est peut-être ça qui est dérangeant.
Le fait que les locomotives de la Ligue 1 soient plus présentes, ça affaiblit le championnat. On a déjà un ventre mou et un bas classement qui est de très bas niveau. Alors cette année,
on a rompu Monaco, Guingamp et Caen,
je peux te dire que ça brille pas de mille feux, mais c'est moins bien que les saisons précédentes.
En fait, il est trauma par ces samedis soirs, pauvre Jonathan là.
Non, parce que tu sais quoi, le problème c'est qu'en plus, comme on est attaché à ces globes-là, on kiffe. C'est vrai.
Ah ouais, t'as Lucado, tout ça.
Quand il marque la dernière minute, là,
j'ai bien senti que
quand on prend un peu de recul, c'est extraordinaire.
Bon, prenons l'avis de Mickaël, qui est là, il est supporter de l'OM. Mickaël, salut.
Oui, salut l'after.
Ça va?
Bonsoir Mickaël.
Ouais, ça va très bien et vous?
Ça va, impeccable. Bon, est-ce que t'es d'accord avec Jonathan, supporter de l'OM comme toi?
Ouais, ben enfin, moi je trouve que la Ligue 1, elle a pas un si mauvais niveau que ça hein, par rapport aux autres. Hein. Personnellement,
mais moi, par rapport aux années précédentes.
Ben par rapport aux années précédentes non plus. Enfin moi je trouve que ben déjà en Europa League on le voit cette année avec Rennes, on les mettait, tout le monde les voyait perdre en face à Séville et ils ont réussi à les sortir. Lyon, ils ont réussi à battre City. Enfin c'est.
Et puis t'as Monaco qui a été horrible en Ligue des Champions, t'as Marseille et Bordeaux qui ont été ridicules aussi en phase de poule. Tu vois, ça s'équilibre.
Je pense que ça existe dans tous les pays.
Après l'OM, moi déjà, j'ai pas compris le début de l'OM
par rapport à la dernière. Vas-y, voilà, enchaîne.
On est passé du coq à l'âne à l'OM, on n'a pas compris pourquoi. Cette année, on les a pas reconnus. Là, maintenant, on a l'impression qu'il y a un renouveau avec Balotelli, qu'on retrouve un peu cette grinta qu'on avait l'année dernière. Mais bon, après voilà, pour moi ça reste un expo ce qui s'est passé l'année dernière et on peut même pas dire l'OM l'année dernière c'était bien quoi. En fait, pour moi ça reste juste un expo.
Tu peux pas faire deux saisons de suite sur l'état d'esprit et sur la taille de ce que t'as entre les jambes.
Disons qu'à un moment donné dans le vestiaire quand il se passe des choses négatives, l'année dernière tout marchait bien, t'avais un vrai vestiaire, un vrai état d'esprit.
Mais
quand ça tu l'as plus, il te reste plus rien.
C'est ça le socle de l'OM.
Bah oui,
c'était. Et puis surtout il y a des conflits aussi un peu entre les joueurs parce que voilà il y a les places qui sont remises en question. Voilà des cadres qui se retrouvent sur le banc, Garcia qui fait confiance à des plus jeunes.
Forcément.
Voilà. Donc ça forcément après voilà c'est compliqué dans la gestion.
Ce qui est en train de se passer en ce moment, ça me fait plaisir à l'OM que les cadres ils soient quand même remis en question et qu'on repart sur de bonnes bases. Bon, après, le centre du sujet, c'est pas l'OM, mais c'est vrai que pour moi, la Ligue 1, ça reste d'un très bon niveau, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, Lyon, ils ont réussi à s'imposer contre City. Alors après, c'est vrai que la beauté du jeu, elle y est pas. Moi, personnellement, je me régale beaucoup plus à regarder la Liga ou à regarder la première ligue que la Ligue 1. Mais. Et quand même, le résultat est là. Bon, on a le PSG qui est devant, mais les autres, on lutte comme on peut.
Il y a autre chose que je l'ai pas mis dans mon avis tranché parce qu'il aurait fallu que je le fasse.
T'aurais été avec le mettre avant.
Mais c'est que j'ai commencé à calculer la moyenne du taux de passes réussies des 10 derniers du championnat de Ligue 1 cette année. les années précédentes. Et c'est en chute de 5 points de pourcentage. Ce que j'ai pas mis parce que je voulais calculer avec d'autres championnats pour faire un comparatif. Mais tu vois que le niveau technique des 10 derniers, et il suffit de voir, hein, c'est, on n'a pas besoin des statistiques, mais quand tu vois par exemple Toulouse, Guingamp, Dijon, Caen jouer, ça m'a l'air d'être beaucoup plus faible que les saisons précédentes.
Merci Mickaël!
Après, merci à vous. Merci.
Salut, Mickaël. À bientôt.
Merci Mickaël. On peut pas écarter ce qu'est le foot français. On aime ou on n'aime pas, une fois de plus, mais tu le sais, Joe, quand tu arrives en Allemagne, tu sais que c'est un jeu super ouvert, que tactiquement en France, tu joues aussi pour ne pas ouvrir d'espace à l'adversaire, tu vois. Bah, si, parce que ça contribue à une certaine beauté de...
Non, parce que tu vois, Montpellier, l'année dernière, je l'ai trouvé super agréable à avoir joué. Même si ils étaient béton à 5 derrière, qu'ils allaient juste très vite devant, je trouvais ça très agréable parce que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient clairement, ils le faisaient bien. Ils avaient de la personnalité. Là, cette année, ça, c'est plus de la bouillie qu'autre chose.
Ils l'ont fait bien en début de saison, pendant 3 mois, et puis ça a été plus dur.
Allez, un petit tour là sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Baptiste qui me dit le niveau de la Ligue 1 est très faible. Marseille est quatrième avec son début de saison catastrophique, ça veut tout dire. Une équipe qui gagne 3 matchs de suite se retrouve à gagner 4 places, dit Baptiste. Ouais, JP,
une fois de plus,
qui nous dit Pierre, arrête de défendre l'indéfendable, la Ligue 1, c'est un jeu pourri, il faut changer de philosophie.
Ces gars-là auraient adoré avoir le niveau pourri de la Ligue 1, je pense. Ils oublient comme c'est difficile d'avoir ce niveau pourri de la Ligue 1, je pense.
Bah écoute, voilà. Enfin, en tout cas,
ils l'ont jamais connu, ils peuvent pas savoir. Peut-être que c'est pas. Mais...
Possible.
Pas un bon argument, ça.
Non, mais si, parce qu'à un moment donné, pour te rendre compte des choses, quand tu dis de chez toi que la Ligue 1 a un niveau pourri ou que c'est pourri, à un moment donné, il faut aussi que tu puisses comparer à quelque chose.
Tu peux être jugé relativement ce que t'as connu avant.
Tu compares avec ce que t'as avant. Quand t'es chez toi sur ton canapé, tu compares à chez toi sur ton canapé.
C'est quoi déjà? Je fais une grosse nuance entre la Ligue 1 cette année et peut-être moins bonne que les années précédentes, et entre eux, la Ligue 1 est pourrie.
Ah oui, enfin,
faut avoir un petit peu de respect encore quand même pour ceux qui font leur métier là-haut et qui le font quand même.
Il est 22h23, ça y est, on a le premier jingle, Laure Le Payeur de l'histoire de l'After. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Qu'est-ce que t'as dit?
Moi, au niveau de la Ligue 1.
Et voilà.
Une définition.
C'est un effet de style.
Et voilà, c'est tombé.
Liaison, autant pour moi. Rien ne leur échappe.
Les directs, il y a eu un but au Havre, Christophe Écuyer.
Ouais, effectivement, Gilbert.
Au niveau du Havre.
Au niveau des niveaux du Havre, eh bien ça fait 2 buts partout ici à Océane. Ils reviennent des loin. Hein. Franchement, les Messins, on rappelle qu'ils étaient menés 2-0. Et franchement, au moment où Kadewere a transformé son penalty pour porter le score à 2-0, on pensait que c'en était fini des Messins, mais c'était sans compter sur la réduction de l'écart de Boulaya tout à l'heure. Alors sur ce but magnifique d'Enguet, là il était excentré côté gauche, entrée de surface de réparation. Il a enroulé sa frappe qui trouve la lucarne du but de Johan Thuram. C'est magnifique et franchement, ils peuvent tirer une fière chandelle également à Alexandre Oukidja, leur gardien, les Messins, parce que s'ils sont encore en vie, c'est en grande partie grâce à lui, il a multiplié les arrêts décisifs. Il reste 8 minutes à jouer ici à Océane et tout reste à faire effectivement dans cette fin de match. En tout cas, Metz revient vraiment de très très loin. 2 buts partout entre Le Havre et Metz.
Et Le Havre, le stade est toujours aussi vide, c'est incroyable.
Vous voyez, par rapport à ce que je disais, on pourrait aussi dire que la Ligue 2 cette année, par contre, le niveau est très bon.
Très bien.
Des équipes comme Brest, comme Metz, ça joue, ça propose beaucoup de choses, le niveau est très bon.
Metz, c'est costaud.
Regardez Paris FC Lens.
Non,
mais Metz, Joe, c'est surtout Metz, costaud, ouais. Tu sais.
Bref, et puis les filles, Pierre-Yves Leroux, l'équipe de France féminine face à l'Uruguay. Où en est-on?
Eh bien, les Françaises qui mènent 4-0 après 66 minutes. Elles n'ont pas réussi à mettre un but depuis 15 minutes maintenant. Pourtant, face à une équipe de l'Uruguay cacochimique, pourrait-on dire. Et eh bien, ça va peut-être être là sur ce corner à venir dans quelques instants avec l'entrée en jeu. Il y a quelques secondes de Marie-Antoinette Catoto à la place de Cascarino.
Laure, un truc à dire? C'est vrai que c'est un match, c'est un peu bon.
C'est compliqué ce match parce que clairement les Françaises sont supérieures sans faire une grande prestation ce soir. On sent qu'à la moindre accélération, elle met en danger.
Je sais même pas si elle a couru une fois dans le match.
Les Uruguayennes ont dépassé le milieu de terrain, pas de nombreuses fois. Après, sur coup de pied arrêté, en plus, Wendy Renard est toujours dangereuse. Et vu le niveau de la gardienne, je pense que ça peut.
C'est dur de faire un match complet contre une équipe où il y a pas grand chose, honnêtement. Il faut pour faire un vrai match agréable à regarder, faut être deux quand même.
Ouais, c'est peut-être le seul match de préparation le plus compliqué.
Hop, voilà le cinquième.
Les autres rencontres vont être plus voilà.
On l'a même pas
fait.
Un peu plus équilibré, il y aura plus d'adversité dans le sens où le Japon, c'est la de voilà. Ouais. c'est quand même deux fois finaliste sur les dernières Coupes du Monde. Le Danemark, c'est quand même un jeu voilà, beaucoup plus abouti avec des joueuses de qualité. C'est aussi, là, je pense, ce match qui permet, permet de faire quand même quelques essais, c'est-à-dire voir qui pour compléter le groupe, parce que la concurrence est rude quand même, notamment sur le front de l'attaque. Je pense qu'il y avait aussi quelques essais encore à effectuer ce soir, et c'était l'occasion de le faire face à l'Uruguay.
Et donc un nouveau but là, à l'instant, Pierre-Yves.
Oui, but de Valérie Gauvin qui détourne ce ballon de la tête. 5-0 après 68 minutes de jeu. La dernière fois, il y avait 8-0. 8-0, je pense, face à l'Uruguay.
Et j'ai été ce match. 8-0.
T'avais réussi à en mettre un ou
non? Non, j'avais joué qu'une mi-temps. C'était post-Coupe du Monde. On avait fait une tournée aux Antilles. C'était en Guadeloupe. On avait joué à l'Uruguay. On avait gagné 8-0. On n'a pas beaucoup progressé, j'ai l'impression.
Ce match n'est pas une très bonne pub pour tous ceux qui disent que les problèmes du foot féminin sont les gardiennes.
Ouais, Jérôme, ça va dire les gens, parce que justement, on en a parlé la dernière fois du niveau des gardiennes. Maintenant, je pense que au niveau des gardiennes, c'est aussi une culture qu'il faut avoir aussi en France. C'est-à-dire qu'on a développé l'entraînement.
Ça
va mieux, mais je trouve que on a quand même mis du temps. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner aux jeunes joueuses l'envie. D'avoir envie de jouer au poste de gardienne de but.
Ouais, puis pour l'instant, on a encore à progresser là-dessus. Les spécifiques en filles sont très nouveaux pour les gardiennes.
Dans quelques instants, on est de retour pour parler de Ligue des Champions. Et Pierre Ducrot, lui, est déjà à mercredi. Pourquoi? Parce que mercredi, c'est PSG Manchester, bien sûr. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Bienvenue, l'after est là, bien sûr, comme tous les soirs en direct. Les drôles de l'âme tout à l'heure entre 23h et minuit, avec une grosse actu, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre. Nos drôles de l'âme seront là. Mais tout de suite, on parle Ligue des Champions avec Pierre Ducrot. Ah, juste avant, un point quand même sur les directs, évidemment. Est-ce que le score a évolué entre la France et l'Uruguay, Pierre-Yves?
Non, toujours 5-0 pour l'équipe de France, la sortie à l'instant d'Amandine Henry, la capitaine remplacée par Maëva Clément.
La Ligue 2, Le Havre-Metz, Christophe.
Le score n'a pas évolué non plus. 2-2. On va rentrer dans quelques secondes maintenant dans le temps additionnel.
Et donc le jingle du Croc tout de suite pour parler Ligue des Champions.
On le préfère ou on préfère ailleurs. Ça, c'est une opinion et c'est une opinion.
Et ouais, les jingles, ils sont comme ça, ils tombent. Oui, ça va très très vite. Ouais. Alors, toi, t'es déjà à mercredi et tu veux nous lancer un message. Enfin, tu veux lancer un message au PSG pour mercredi.
Oui, ils ont pas besoin de moi, mais c'est pas grave, ça me fait du, ça me
oui,
fait du bien.
Oui, mais on t'écoute, au PSG, hein.
C'est effectivement pas un avis tranché,
dans la corbeille.
Je suis le premier à avoir dit que ça s'appelle plus la corbeille,
mais ça s'appelle plus la corbeille.
Ça s'appelle le carré.
Ah, le carré, pardon.
Avec tenue correcte exigée, c'est écrit.
Ah, bah oui, bien sûr. Ah, mais la corbeille. Ça a toujours été dans tous les stades, d'ailleurs.
La corbeille, c'était plus mignon. Carré.
Le buffet, il est pas mal, hein.
Ouais. Le buffet est bon.
Il pourrait s'améliorer sur les whiskies qu'il propose, mais c'est pas mal.
on fera passer le message.
Donc en gros, l'alcool est interdit pour les gens qui sont dans les tribunes normales, mais Jonathan, lui, peut avoir du whisky.
Carré. C'est vrai.
Ça c'est beau. Quel scandale.
Moi, je suis à l'eau gazeuse quand j'y vais, mais bon. On parle tous, et moi le premier, j'en ai parlé, mais de prudence, de pas d'excès de confiance pour le PSG. Il y a tout ce qu'il faut, mais attention quand même. L'histoire du club a montré que. Et puis en fait non, il faut arrêter avec ça. L'histoire du PSG en plus ne montre pas qu'effectivement il y a déjà eu un excès de confiance ou un manque d'humilité du côté du Paris Saint-Germain. Elle montre tout le contraire. Elle montre qu'à chaque fois que le PSG a réussi à se faire éliminer quand ça paraissait impossible, voire même quand ils se sont fait éliminer parce que ça a été logique, parce qu'ils ont été moins forts, c'est parce qu'ils ont eu peur ou parce qu'ils ont fait des non-matchs. On peut les reprendre tous un par un depuis l'ère Qatari. Manchester de mercredi, pas demain, mercredi, c'est peut-être le huitième de finale le plus facile qu'ils aient à jouer, très clairement. Peut-être, alors je vous accorde le Bayer Leverkusen, voilà, qui semblait quand même vraiment à leur portée, puis ça l'a fait d'ailleurs. Mais sinon le reste, même Valence au tout début de l'ère Qatari, c'était plus dur que Manchester mercredi. Le Real, Chelsea, Barça, et à chaque fois il y a eu cette peur. Donc le message en gros là aujourd'hui, c'est d'ailleurs Kylian Mbappé l'avait dit, c'est juste qu'à un moment donné, il faut au contraire assumer ses forces. assumer sa supériorité.
Donc toi, t'attends que le PSG rentre
sur le terrain, non pas pour se qualifier 1-0 ou 2-0 et en tremblant un petit peu la dernière demi-heure, etc. Il faut qu'il rentre sur le terrain et je crois qu'en plus c'est l'état d'esprit de manière générale de ce groupe maintenant. On y va et on défonce tout et on montre à tout le monde que là on se qualifie en gagnant 3-0 chez nous à la maison avec un parc qui va être bouillant derrière avant et pendant le match et on les écrase et on doute même pas et on leur laisse même pas 10 minutes pour avoir une once d'espoir de se qualifier en prenant un but un peu bête ou quelque chose comme ça. Ça doit être l'état d'esprit mercredi du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un avis très très court, très tranché, c'est il faut attaquer, il faut écraser Manchester parce qu'on en a la possibilité. Voilà.
Jonathan, t'es d'accord?
Oui, il a tout à fait raison. Je pense que la remontada a traumatisé un petit peu beaucoup de gens, mais que quand tu regardes objectivement Paris cette année est supérieur. Je pense que j'ai jamais été aussi confiant entre guillemets pour le PSG dans la Ligue des Champions. Auparavant, je le disais, je le mettais toujours dans le deuxième chapeau des potentiels vainqueurs. Là, pour moi, ils sont clairement dans le premier chapeau avec l'Atlético et Manchester City. Dans le contenu, ça a encore un cran au-dessus de ce qu'on a pu connaître sous l'ère Qatari. Et surtout, t'as tout à fait raison parce que je pense que il faut s'imposer en écrasant Manchester pour faire passer un message à deux niveaux. Un message aux adversaires que tu vas tirer en quart de finale pour qu'ils arrivent avec la peur au ventre au Parc des Princes. Et un autre message aussi, plus sur la scène européenne, plus au niveau des instances pour montrer que le PSG, c'est vraiment devenu un grand club d'Europe et que les arbitres, par exemple, devraient traiter le PSG
un peu comme
un grand club européen. Et je pense que ça passe par des performances qui sont des démonstrations de force face à un concurrent qui est quand même un nom.
Il faut qu'ils assument, le fait d'être très fort aujourd'hui, il faut que ça devienne vraiment une
habitude.
Atout. Ouais, puis un atout vraiment. Faut que ça se transforme vraiment en force, quoi.
Laure, qu'est-ce que t'en penses?
Voilà, ce qui est important, c'est qu'en plus le Paris Saint-Germain n'a pas non plus entre guillemets ses stars et fait déjà peur parce que sur ses prestations, c'est des prestations abouties collectivement. Il y a des joueurs qui se sont révélés et clairement, si il marque un grand coup encore mercredi, derrière, on se dit potentiellement s'il récupère encore Cavani, s'il récupère Neymar. Forcément, les adversaires.
La valeur ajoutée à ça. Hein.
Derrière, les adversaires vont quand même prendre
Cavani
peur et prendre
sur le
sérieux.
Mercredi. Ouais. Et Neymar sera au match, mais dans la tribune lui. Ouais. Il va rentrer du Brésil pour venir au match.
Même Cavani, j'ai du mal à.
Bon, on saura demain, mais c'est la tendance.
En tout cas, collectivement, je trouve que cette équipe a énormément progressé au contact de Tuchel, qui est capable d'évoluer dans différents systèmes, aussi. Dans l'état d'esprit. Mmh. Et puis, ce qu'il a eu, c'est aussi en termes de management, c'est qu'il a réussi à rester mobilisé, tout l'ensemble de ses joueurs. C'est-à-dire que à un moment donné, il a utilisé quand même un nombre incalculable de joueurs, laissé au repos, fait un turnover, toujours laissé concerner ceux qui jouent un peu moins, donner de l'importance à chacun. On le voit quand même avec Choupo-Moting qui pour l'instant ne brille pas avec cette équipe, parfois est peut-être la risée un petit peu du public, mais finalement attachant. Je trouve que c'est en tout cas une équipe qui cette année sur la scène européenne peut faire quelque chose.
Il a le public derrière lui. Hein. Il a le public derrière lui, notamment le public du parc en tout cas contre Guingamp. Il y a eu
un chant la mascotte.
Pendant plus de 10 minutes, ils ont chanté son nom.
Ça ressemble au Fabrice Apron.
Et ils attendaient qu'une chose, c'est qu'il marque. Non, c'était pour connaître un peu ce public, c'était réellement pour lui montrer qu'il le soutenait. Après,
mais
ils sont
parce
conscients
qu'ils sont d'une dynamique de victoire et que pour le moment, Choupo-Moting, il joue sur des matchs qui sont plutôt faciles.
Oui, de toute manière, c'est pas lui qui va jouer effectivement les gros matchs.
La différence par rapport à ça.
Jonathan, je t'arrête parce que c'est terminé entre Le Havre et Metz. Christophe Lécuyer.
Ouais, sur ce score de parité, 2-2, beaucoup de regrets dans les rangs. Havre, le Havre qui menait 2-0, les buts de Ferrat et de Kadewere. Mais Boulaya puis Nguet permet à Metz de poursuivre son avancée tranquillement en classement. Metz, plus que jamais leader, pas de changement non plus du côté des Havrais qui reste 10e.
Merci, bonne soirée, Jonathan.
Je disais, la différence pour le Paris Saint-Germain entre cette saison et les autres, c'est qu'ils ont eu l'occasion de se tester très tôt dans la saison.
Oui.
Deux fois.
Ils ont dû commencer leur saison
contre Liverpool et contre Napoli. Et que cette équipe, qui les saisons précédentes connaissait de l'adversité un peu plus tard dans la saison, même s'il y avait toujours une double confrontation de galants en match de poule, là, ils ont vraiment dû se tester dans des matchs à haute intensité, où il a fallu vraiment montrer du caractère. Et je pense que ça sera un atout pour poursuivre la campagne européenne.
Yann est avec nous, supporter parisien au 32-16. Salut Yann.
Yvan,
mais Yvan, excuse-moi, Yvan. C'est la première fois que tu passes dans l'after en plus, Yvan.
Comment ça va, les gars? Moi, je suis dans ma voiture, salut, sous la flotte. C'est chaud.
Il pleut, là?
Mais bon. Ouais, je suis sur la parisien en train de rentrer sur Bruxelles.
En voiture. D'accord.
Ça fait des années que je vous écoute, les gars. Je suis trop content d'être en ligne, quoi. Enfin.
Bah, écoute, Yvan, vu que c'est ta première dans l'after, on va t'envoyer un petit t-shirt. Je pense que tu
mérites. Vous déchirez, voilà. Vous déchirez.
C'est cadeau.
Par contre, les gars.
T'es d'accord
les
avec Pierre, hein, ou faut marquer le coup mercredi? Faut leur mettre une tannée à Manchester, leur montrer qui c'est le patron?
Les gars, ouais, je crois que vous vous trompez. Vous recommencez la même erreur que Barcelone. Attention. Moi, je dis, ça va être très dur. Vous croyez quoi, les Anglais? Mais ils sont pas morts. Ils vont arriver, mais ils vont nous bouffer, les gars. Ok, on a une bonne équipe et tout, mais les gars, moi je suis parisien à fond, hein, mais je dis attention, c'est pas gagné, loin d'être là. Si on prend un but tôt, bon, mentalement, on a personne encore qui est là.
Mais c'est justement en pensant comme ça que tu vas le prendre le but tôt. C'est justement en leur rentrant toi dedans avec beaucoup plus d'âme qu'eux, parce que tu t'as quand même vu l'équipe que Manchester va devoir aligner. Tu l'as vu.
Et Manchester.
T'as 6 titulaires absents et t'as, enfin allez, 5 titulaires absents. Je t'en offre un même le 6e. Et les 3 autres qui manquent, ce sont ceux qui doivent remplacer ces titulaires manquants normalement. Ça veut dire que t'as potentiellement 8 titulaires qui sont pas là.
Ouais,
c'est une équipe complètement décimée. Liste, si tu leur rentres dedans, ils ont pas le moyen de répondre.
Et Manchester, Martial, c'est pas le Barça, Matic, hein. Lingard, ben oui. Mata Herrera, Darmian, Valencia, Jones, Sanchez, bref.
Ouais, non, c'est le milieu de terrain entier.
Plus Pogba, suspendu.
Et Pogba, ouais, parce que t'as l'intégralité du milieu de terrain qui est pas là.
Bon. Même en attaque, même s'il y aura Lukaku qui revient.
Bon, Yvan, t'as entendu. Yvan, détends-toi, ça va le faire. T'inquiète.
Manchester, on n'est pas le Barça.
Rappelle-toi du Barça, Yvan.
Non, mais Manchester, on n'est pas le Barça. Et le Paris Saint-Germain, qui a perdu contre le Barça, n'était vraiment pas la même équipe.
Bien sûr.
Là, tu vois des joueurs qui dégagent une certaine sérénité. Je pense notamment à Thiago Silva et Marquinhos, qui sont à un niveau extraordinaire, mais qui en plus ont été présents dans les moments compliqués cette saison, en phase de poule, qui ont montré beaucoup de caractère et beaucoup de sérénité.
Et puis, l'air de rien,
t'as pas ce sentiment de panique, tu vois.
T'as Alves, en plus, qui est en termes d'expérience. T'as un Buffon derrière toi, en termes d'expérience, qui est énorme. T'as des garçons comme ça. T'as un Presnel Kimpembe qui, l'air de rien, sur ce match-là, ne passera pas au travers. Vous verrez, il aura. Enfin, vous verrez. Ouais, je pense qu'il va jouer. Ouais. Je pense qu'il va jouer.
Voilà. Kylian Mbappé voulait qu'on arrête de vendre de la peur. Et Pierre Ducrot vous vend de la confiance, messieurs dames dans la peur.
Mais Yvan veut continuer sur la peur.
Mais Yvan, lui, non, il préférait de la
Yvan,
peur.
Yvan, rassure-toi.
Salut Yvan.
Moi, je suis juste les gars. Moi, je vous dis juste les gars.
Vas-y pour conclure.
Pas gagné.
Ah bah non, faut le jouer le match. Hein,
bien sûr, mais faut le jouer comme Pierre a dit avec un esprit conquérant.
Et en tout cas, moi, je sais sûrement que j'aurais pu qu'on la gagne, cette Coupe des Champions. Mais franchement...
Bon, on l'a pas fait changer d'avis, Yvan. Hein, mais bon, écoute, merci à toi en tout cas.
Ciao, salut. Yvan. Et sois prudent sur la route.
Bon, merci les gars. Et petite dédicace à mon grand frère qui vous kiffe aussi à Montréal. Hein,
ça marche. Bah écoute, tu lui passeras le bonjour à Montréal. Salut Yvan. Dans quelques instants, nous sommes de retour pour parler des dernières révélations concernant l'OM de l'ère Bernard Tapie. Mais d'abord, France-Uruguay, c'est pas terminé, Pierre-Yves Leroux dans ce match amical international.
Bien non, à l'instant, un nouveau but pour l'équipe de France, centre venu de la droite. Et il y a du monde pour récupérer au deuxième. J'ai pas réussi à identifier qui avait inscrit ce but. Mais en tout cas, ça permet à l'équipe de France d'inscrire le sixième but de cette rencontre.
C'est pas l'Orlepayeur qui a marqué.
C'est Maïvac
et
Marron qui a marqué.
Ah oui, qui est rentré tout à l'heure en cours de jeu, un peu de sang neuf qui permet donc à l'équipe de France de marquer un nouveau but.
Ça fait 6-0 donc pour la France face à l'Uruguay. Bon,
une belle ambiance, hein, à Tours.
Ouais, on se posait la question. C'est vrai que c'est plein, hein, Pierre-Yves. Hein.
Il y a 11 000 spectateurs.
Il y a plus de matchs. Il y a plus de monde pour ce match que pour les matchs de Tours en national et en Ligue 2 à l'époque.
Ah oui, largement, mais il paraît qu'il y avait eu, voilà. Il y a eu à peu près 30 000 demandes pour ce match.
30 000 demandes?
Ouais, apparemment.
Bah, pourquoi il joue pas dans les salles plus grands, là?
Je pense qu'on peut faire un petit peu la promotion aussi dans d'autres partout, villes pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Je pense que c'est un petit peu le parti pris. Puis ici, pas s'éloigner trop de Clairefontaine pour se préparer.
T'as pas l'équipe de France masculine aussi qui vient, donc, je sais pas.
Oui,
l'équipe de France masculine, elle va pas à Tours ou à Laval.
Non, mais c'est comme Denis Charvet qui voudrait faire jouer le Stade Rennais au Stade de France, puisqu'il y a eu 90 000 demandes pour le match contre Arsenal.
Ah, sacré Denis. Ouais, mais lui, il a fait ça avec le Stade français, tu comprends, donc il s'enflamme. Dans quelques instants, l'OM au programme. Qu'attendez-vous maintenant suite aux déclarations de Marc Frattani, l'ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie? On en parle ensemble, bien sûr, et avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot. Gilbert
Bribois. L'after est là jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, avec Jonathan Macardy, avec Laure Le Pailleur ce soir et avec Jérôme Rantaine qui est passé nous voir.
Eh bah oui. C'est toujours un
Comment ça,
ça
va?
Ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est bien.
T'es content?
Ouais, ouais, ça donne un peu de temps de parole à Jonathan, c'est bien. Pierre lui apporte une expérience, c'est bien. Bravo. Bravo à eux. Et puis l'équipe de France féminine aussi pour l'or. 6-0.
Il sera mais on va être championne le... du monde. Le on va être championne du monde, super. Vive le mois de juin. Hein.
Allez, Jérôme qui sera demain soir avec et nous, bien
ils
sûr.
Ils t'ont dit que tu commentais tous les matchs, Angers, ouais, au mois de juin.
Avec grand plaisir.
Ok.
Non, je vais partout, Jérôme Bretagne. Demain, alors oui, tiens, ça me permet de vous donner le planning de la semaine. Demain, évidemment, Ligue des Champions. Demain, on a le Real hein, qui joue face à l'Ajax. Ce sera l'affiche du soir, puisque dans l'autre match, Dortmund-Tottenham. Bon. À moins d'une remontada. Incroyable.
Mais oui, il va
tu crois la remontada de Dortmund? On en parle avec
Jérôme. Bah, vu la dynamique de Dortmund jaune. En ce moment.
Tu sais pas.
Bon, ce sera demain. Mercredi, le PSG mieux, face à Manchester, plus Porto Roma, after, comme de tradition désormais, jusqu'à 1h du matin, les soirs de match de club français en Ligue des Champions. Et puis, jeudi, le match Rennes-Arsenal à 18h55, et qui se terminera vers 21h, donc after de 21h à minuit, avec plein de surprises jeudi soir, vous allez voir, prépare un after très sympa. D'ailleurs, sur Rennes-Arsenal, je rappelle que vous avez encore, maintenant une petite heure pour envoyer foot par SMS au 732-16 pour gagner vos places, puisqu'il nous reste des places ici dans l'after pour ce Rennes-Arsenal, donc n'hésitez pas à vous envoyer foot par SMS au 732-16 pour les gagner. 6-0 pour l'équipe de France face à l'Uruguay, vous l'avez entendu dans la bouche de Jérôme Bretagne, et tout de suite, on parle de l'OM, jingle Bribois.
Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une?
Je vais essayer. Alors, vous avez tous suivi ce qui s'est passé ce week-end, les déclarations de Marc Frattini, l'ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie. Alors, il a parlé de politique et tout, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le foot. Deux choses qu'on peut retenir, je le rappelle. Il dit, moi, j'ai participé à la corruption, j'ai donné une enveloppe à un arbitre après un match face au PSG. Deuxième chose, il dit
l'enveloppe,
oui.
C'est rien, c'est ce qu'il y a dedans. Parce que l'enveloppe, on s'en fout.
Oui, et ben, enfin, il y avait un truc dedans,
hein,
a priori.
Ah, il l'a pas dit. Hein.
Il a dit, on avait convenu de quelque chose ensemble avant. Et il dit, effectivement, on utilisait des médicaments, quoi, pour mettre dans l'eau, dans tout ce que les adversaires ingurgitaient.
Si c'est vrai, c'est encore plus grave.
Avant le match.
C'est encore plus grave.
Tu trouves que ça, c'est plus grave que filer un billet à l'arbitre?
Tu fais ingurgiter à quelqu'un.
Si t'attaques à l'intégrité physique,
bien sûr, des médicaments qui étaient.
Les deux sont graves.
Les deux sont graves, mais je dis que c'est encore plus grave. Douleurs,
c'est plus grave.
Alors, on va écouter Eric Dimeco, parce qu'il y a un truc quand même assez étonnant. C'est que tous les joueurs marseillais de cette époque-là, il n'y en a pas un qui parle. Il n'y en a pas un qui parle. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, qui sont des champions du monde, de 98 notamment, qui étaient là. Bon, il y a quelques stars, il y a même des gars qui sont toujours autour du club. Basile Boli, pour le citer, voilà, parce que c'est le premier qui me passe par la tête là, mais voilà. Eric Dimeco, lui, qui fait partie de notre Dream Team, s'exprime à chaque fois. D'ailleurs, écoutez ce qu'il dit ce soir, parce qu'il en a un petit peu marre.
Il y a prescription, allez-y, donnez les noms, parce que en réalité, on salit le club, on salit les joueurs qui y ont joué. Moi, je me sens sali, et quand je me retourne sur ma carrière. Je me dis que finalement je mérite pas d'être sali, et que peut-être que ceux qui mériteraient d'être sali, puisque eux ils ont trempé dans ces histoires-là, eux ont levé le pied sur certains matchs, je le répète, eux, peut-être nous donner des leçons ou expliquer le football aux jeunes ou voilà. Donc quitte à sortir des trucs qui finalement sortent tous les 2 ans, 3 ans, allons au bout quoi.
Bah voilà, moi je suis d'accord avec Eric.
Ah bah oui, mais on est tous d'accord.
Avec maintenant, il faut balancer, c'est-à-dire.
Ah, c'est ça.
Il y a eu des bouquins. Alors il y a eu des procès et des bouquins. Bernès a parlé au procès. Edli a sorti un bouquin. Il y a eu plein de choses. Effectivement, comme le dit Eric, ça revient régulièrement et tout. Mais là, Monsieur Frattani, là, votre arbitre, c'est qui? C'était combien? Les produits, c'était contre qui? Comment ça marchait? Comment ça fonctionnait?
Mais pourquoi monsieur Frattani,
Donc faut aller au bout.
Pourquoi il parle aujourd'hui?
Faut tout balancer pour en finir avec cette histoire.
Pourquoi il parle? Quelle est la vraie raison?
Parce que c'est un règlement de compte.
C'est un règlement de compte,
et tout n'est pas réglé entre les hommes. Donc s'il balance tout, il n'a plus rien. Il a plus de billes. Et donc je pense
qu'il a plus de levier de pression
à mon avis, si vraiment il voulait faire mal, il sortirait
on sort du cadre du football, on rentre dans le cadre politique.
Ah, bien sûr.
Et les coups bas on sait que dans ce milieu-là tous les coups bas sont permis, et il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sortent dans le monde politique où il y a des accusations, où il y a pas de preuves, où c'est des fabulations, où ça peut être vrai aussi, mais c'est toujours très compliqué d'y voir clair dans la mesure où ça dépasse le cadre simple et pur du football. Alors moi, je suis un peu le cul entre non, ça, c'est pas que ça me dérange, mais moi ce que j'aimerais, c'est que si, comme Gilbert, je le rejoins à 100%, c'est que si vraiment c'est avéré, il faut des preuves concrètes. C'est trop facile d'accuser sans amener des preuves concrètes. Alors, si les matchs ont été achetés, il faut donner les noms, il faut donner les dates, il faut donner les arbitres, il faut donner les sommes, il faut des détails. Là, tu peux pas te contenter de balancer ça. Sauf c'est trop facile.
Si, sauf que si c'est vrai, on va mettre des si parce qu'on en, nous on n'en sait rien. Si c'est vrai, moi je pense que ces gens-là ne parleront jamais complètement parce qu'ils perdent toute tout levier comme
Pierre.
Tu le dis. C'est le souci.
Il y a une omerta totale autour de cette histoire.
Mais bien sûr.
Parce que il y a des gens qui nous parlent off. D'anciens joueurs qui disent ouais bah moi à l'époque c'est vrai j'ai vu ça bah dis-le ah mais non je peux pas mais après, bon mais allez-y après, les mecs
est-ce que ces joueurs là ont absolument rien à craindre s'ils parlent
non mais
en fait t'as tort sur un point c'est de dire que s'il donne des preuves il a plus de levier non c'est pas vrai parce que de toute manière je pense que d'un point de vue juridique il y aura prescription sur les faits et il faudrait vérifier mais il me semble qu'il y aura prescription et
d'autre part juridique c'est en termes d'image
et d'autre part et oui bah justement et d'autre part bah le mal est fait c'est trop tard il suffit de lancer ces accusations là on sait comment fonctionne le paysage médiatique à notre époque tout va très vite l'information va très vite
manière
ah bah c'est non mais là c'est trop tard à partir du moment où c'est ça qui est dégueulasse dans nos sociétés c'est pour ça que la présomption d'innocence existe c'est à partir du moment où tu balances des accusations qui sont fondées ou pas fondées avec les réseaux sociaux avec l'hypermédiatisation le mal est fait c'est trop tard donc le levier il y a pas besoin d'en avoir.
C'est terminé à tour entre la France et l'Uruguay, Pierre-Yves.
Victoire de l'équipe de France, 6-0 face à l'Uruguay avec une victoire large mais difficile de tirer peut-être des enseignements pour Corinne Diacre. Le prochain rendez-vous, et ça sera contre le Japon et le Danemark les 4 et 8 avril pour cette équipe de France à 95 jours du début de la Coupe du Monde.
Voilà, ce sera autre chose, hein. Tu nous l'as dit Laure, ce sera du haut niveau.
Oui, ça sera autre chose, le Japon qui justement a brillé à la Shisbilis Cup, là, notamment a fait un match nul face aux États-Unis, un autre football très technique, très tactique, football asiatique, c'est toujours compliqué de jouer.
J'avais éliminé les Françaises aux Jeux Olympiques de Londres, les Japonais.
C'est ça.
Je me souviens, j'y étais.
C'est ça. Et la France avait raté un penalty qui aurait pu changer la physionomie du match.
C'était à ce match ?
Non, pas ce match.
À Wembley.
J'étais à Londres.
C'était à Wembley, exactement. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ce soir, on peut pas tirer tellement d'enseignements. Quelques joueuses peut-être qui ont marqué quelques points, qui avaient besoin de faire encore quelques essais. Mais la France s'est rassurée en marquant des buts, parce que clairement, le match contre l'Allemagne n'était pas tellement abouti, notamment dans le contenu.
Défaite 1-0,
voilà. Mais on va attendre les prochains matchs, c'est ça, et la prochaine liste.
J'ai quelques réactions là sur le hashtag RMC Live. J'ai Manu qui lui dit « Accusation honteuse, on sait bien que l'OM n'a jamais rien fait et que VAOM est un complot de la CIA. »
Nous dit... Oui, là, pour le coup, on a eu des preuves. Ouais.
Nous dit Manu, et puis Armand qui me dit « Moi, j'étais avec Mélic à Béthune, j'ai un alibi. » Effectivement, c'est vrai. Bon, enfin voilà, moi c'était ça, le message que je voulais faire passer, c'est « Messieurs, parlez !»
Oui, ce serait bien, ce serait bien. Mais moi, j'y crois pas une seconde. Je suis désolé.
L'Omerta va continuer.
Bah oui, je pense. Ouais.
Bon, bien dommage.
Désolé, Gilbert.
En tout cas, 32-16, si vous voulez réagir, bien sûr. Eric Dimeco, lui, l'a fait. Et son interview est à retrouver sur
rmcsport.fr. Je comprends Eric. Quand on connaît en plus Eric, on a peine à imaginer qu'il est trempé un jour là-dedans et qu'il est vraiment intègre. Et effectivement, tu te sens sali avec ceux qui l'ont fait, qui eux se posent peut-être beaucoup moins de questions qu'Eric. C'est ça qui est.
S'ils l'ont fait.
S'ils l'ont fait, bien sûr. Mais c'est ce qui est triste. C'est un peu comme après un match, quand un coach arrive dans le vestiaire et balance. Il y en a ici qui vont pas se regarder demain dans le miroir. Toi qui a un peu réfléchi, qui a du recul après chaque match, t'essayes de t'auto-analyser. Bah tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai fait machin. Et puis tu te rends compte que ceux qui ont été beaucoup plus mauvais que toi, ils s'habillent, ils ont déjà pris la douche, ils sont déjà sur la soirée d'après quoi. Bon.
Oui, je précise que Bernard Tapie a expliqué qu'il allait porter plainte contre Marc Frattani, donc tout ça à suivre évidemment. Deux trois autres infos du jour concernant la Ligue 1. Bordeaux, vous savez qu'il y a un match entre Bordeaux et Montpellier mercredi, juste avant le PSG Manchester. Donc ce sera sur RMC évidemment. Pas mal d'absents à Bordeaux, alors pour des raisons très diverses. Pablo, déchirure musculaire. Le Nigérian Kalou, qui est dans le souci puisque sa mère a été kidnappée au Nigeria. Donc les kidnappeurs demandent une rançon. Elle est rentrée chez elle en voiture. Elle a été kidnappée. Alors, c'est pas une première, hein, parce que non, beaucoup de joueurs nigériens ont connu ça. Je me rappelle de Nwankwo Kanu à qui c'est arrivé.
Ce qui rend pas la chose moins grave quand même.
Oui, tout à fait. Effectivement. Donc espérons que tout ça se termine bien. Et puis alors l'autre absence un peu plus comment dirais-je étonnante ou grotesque, c'est Sankaré qui joue pas depuis quelques matchs. En fait, on apprend, c'est Sud-Ouest qui révèle ça, qu'il a fait une mauvaise réaction suite à la pose d'implants de barbe. Je pensais pas que c'était possible ça. Ouais, l'implant de barbe.
Le jingle si, ça existe. De Joe, ça.
Et donc voilà, donc du coup petite fièvre et tout, donc il peut pas jouer.
Implant de barbe.
Ouais.
OK, soit. Aucun commentaire. Ouais, j'en aurais bien besoin, c'est ça que tu veux dire.
J'ai rien dit.
Il a une belle barbe, mais un trou et de la barbe, et donc il veut remédier à ça.
Voilà. Chacun a besoin des implants dont il a besoin.
Un pétailleur qu'on connaît.
D'ailleurs, je ne te jette pas la pierre.
Ouais. Ou pas, non. Mais tu sais, quand tu pourrais faire une Rooney.
Ouais. Ouais, mais non.
Prends des poils des fesses, tu te.
Une fois que t'es habitué. Non, mais la plus belle réussite, c'est Conte.
Ah oui. Ah, sa chevelure est magnifique.
Ah, Conte, c'est.
Ah ouais.
C'est
un miracle de la nature.
Non, c'est
du haut de gamme.
Un espoir pour tous les chauves de la planète. Parce que ce type était chauve, quand même.
Bah, il était pas vraiment chauve. Il avait chaussé au moine, tu sais.
Ouais.
C'était vrai, c'était dégueulasse, il restait un peu long sur les côtés.
Et puis tout à coup il est revenu avec les cheveux de Patrick Swayze.
Incroyable.
Je crois que
Gareth Bale a fait la même chose aussi.
Oh non.
C'est pour ça qu'il longtemps il jouait avec son chignon, c'était pour cacher en fait sur 2-3 photos. Ah non, tu vois qu'il a un trou chaussé au moine derrière aussi.
Tu crois ? Alors juste au niveau,
il y a des photos.
Au niveau du forfait grotesque, on le place où, Sankaré, sur l'échelle de Steve Marley qui se blesse avec son accréditation dans l'œil, ou de
le flocon de parfum,
ou de Julien Escudé qui se blesse en promenant son chien. Vous vous souvenez de celle-là?
Le chien, c'est pardonnable parce que
il était tombé sur le trottoir en promenant son chien.
Moi, je pardonnerais tout aux gens qui ont des chiens, donc pas Julien Escudé. Mais Marinette, d'ailleurs, je lui ai laissé la radio pour qu'elle m'entende.
Il y a pas Jérôme Rotten qui avait loupé aussi un match parce que son chien lui avait marché dessus, là, il avait la tête près du carrelage, tu te rappelles pas de ça? Il était revenu avec
Non? Mais ça, c'était ici, dans l'after.
Oui, c'était ici, dans l'after, bien sûr. Tu te rappelles de ça? Il ramassait une balle en dessous de son canapé pour.
En fait, il l'a vu se battre en boîte.
Il m'a raconté l'histoire, j'y crois. Le chien.
Mais tu crois tout ce qu'il raconte? Tu crois tout ce qu'il te raconte? Tu crois tout ce qu'il te raconte, Jérôme?
Quel naïf, ce Pierre.
Moi, je le crois.
Non, c'est Sankaré, là, c'est au même niveau que le flocon de parfum et compagnie. Le
flocon de parfum, c'est Canizares.
Canizares, ouais.
Ouais, bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je voulais la lettre de Platoche. Vous avez vu ça? Platini qui écrit une lettre aux joueurs via la FIFA Pro et qui dit: défendez l'esprit du jeu, messieurs, défendez notre football. Il en a marre de toutes les décisions de changement de règles du jeu, la VAR et tout. Platoche, évidemment, nous sommes dans l'after, et moi en particulier, totalement d'accord avec lui. Oui à l'esprit et non à la lettre. Voilà.
Ah ouais. Bravo. Ah, je vous ai entendu avec Duga cet après-midi.
Ouais, Duga, il veut des robots, lui.
Duga, il veut les défenseurs avec les mains dans le maillot maintenant. Ouais. Tiens, on va faire des maillots.
Tu lui diras, tiens, ça me fait plaisir.
Comment tu fais pour sauter avec les mains comme ça?
Non, mais et puis pour défendre.
Pour garder l'équilibre.
Laure, merci beaucoup.
Merci.
Tu reviens quand tu veux. Tu reviens, t'es là souvent.
Oui.
Dans la Ligue des Champions, sur RMC Sport, le foot féminin et tout le reste, donc. Tu fais partie de la Dream Team désormais. Laure Le Payeur qui reviendra très vite dans l'after dans quelques instants. Nous, on revient. Tiens, on me rappelle aussi qu'il y a eu le forfait pour les UV de Mexès.
C'est du même acabit. C'est tout aussi ridicule. En plus, lui, il aurait dû arrêter parce qu'il ressemblait vraiment à une pilule dorée, quoi. Vraiment une
clémentine.
Bizarre, ouais. Non, pire un peu, tu sais, genre aux filles qui se maquillent vraiment trop avec le maquillage rouge. Bronze et puis ça scintille et tout. Non, là, lui, c'était trop. Les Mexès, Rome lui a pas fait que du bien.
Bon bref, revenons au drôle de dame, elles nous attendent, elles sont là dans quelques instants, juste après 23h. À tout de suite, le foot européen est dans l'after.
RMC, l'after foot.